Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début. À suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain spécial Culture Jeune et Bertrand Chamerois pour son écran de veille spécial Culture G. Notre invitée, c'est la comédienne Annie Dupéré pour la nouvelle série de France 2 qui démarre ce soir. La faute à Rousseau, Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans Les Indispensables, il est comment le nouveau Stephen King? Eh bien, réponse de Nicolas Caro et puis une exposition du peintre Kandinsky très surprenante. C'est Louise Bernard qui nous fera la visite. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Content de vous retrouver, bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Philippe Vandel.
Tout aussi content de vous retrouver, c'est l'heure Bertrand de votre écran de veille. Et ce matin, vous nous parlez d'un jeu culte.
Oui, la bonne paye, hein, la bonne paye. Que de souvenirs, non pas du tout, je vous parle de questions pour un champion. Eva, on va vérifier si tu es calée sur le sujet. Attention
là,
Eva.
J'ai un peu peur, oui.
Top. Depuis combien de saisons le jeu existe-t-il ?
33 saisons.
Oui, c'est oui. Combien de numéros ont été diffusés depuis sa création ?
9550.
Oui, qui anime le jeu ?
Samuel Etienne.
Oui, le doux et lumineux Samuel Etienne, on embrasse. Le Sassa, on embrasse. Le Mumu, on embrasse. Le Samu, et il a succédé à ?
Julien Lepers.
Et à ?
Julien Lepers.
Et à Vincent Perrault.
Non, là.
On a tendance à l'oublier, mais il a animé le jeu du 14 au 28 janvier 94. Vincent Perrault, ce n'est pas que Mokchou Patamou et le Dragster. Hein, voilà. Question bonus, combien de temps dure le jeu ? 38 minutes. Enfin 28 si on enlève les 10 bonnes minutes pendant lesquelles les candidats racontent leur vie.
Chacun peut le préparer comme il veut, soit avec du lait, notamment en hiver, c'est sympa.
Des mots me font penser à des chansons. Je viens voir ma fille et puis oui, c'est trois bouts de chou.
J'ai déménagé au Havre assez jeune.
C'était vraiment très intéressant.
Et moi, je suis Verseau ascendant Bélier et j'adore les macaronis. À l'animation, on le disait, Samuel Etienne, qui est fan de Bourvil.
Oh, joli.
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 Joli. Joli, d'accord.
Joli, joli, joli.
Ah bah, bon, hello, ouais.
L'imitation.
C'est pas mal, on y était. Ouais, hein. Ce jeu, c'est un champion, mais aussi et surtout des...
championne.
Oh, des questions. Ah, bah alors. Quand je n'écris pas les réponses, ça suit moins.
Il faut un peu mettre au féminin, mon cher
Bertrand.
Des Vétran.
Questions, des champions, des championnes, des questions qui portent parfois sur l'apéro.
Top. Boisson alcoolisée. Je porte un nom issu d'un verbe signifiant asperger en allemand. Apparu au début du.
Spritz.
Et oui, c'était la bonne réponse, le Spritz. Et voici la meilleure justification de connaissance d'une réponse depuis la création du jeu.
Spritz. Je suis alcoolique.
Oh non! Eh oui.
Alors, décomplexé.
Complètement décomplexé. Alors ce matin, j'aimerais rendre justice à Question pour un champion qu'on caricature injustement depuis des années comme un jeu dans lequel les candidats ne remportent que des encyclopédies en 12 volumes. C'est faux. On y gagne aussi des ballotins de chocolat. Alors les raccourcis, ça a 2 minutes. Non mais, outre ces cadeaux, les candidats remportent de l'argent. Oui, du flouze, du pèse, de la grosse moulaga.
D'abord, je vais vous rappeler où on est la cagnotte. 5 marches pour la cagnotte de 14 500 euros.
Eh oui, c'est pas mal.
Ah oui.
Hein.
Bah oui.
Mais il y a quand même quelque chose que j'ai du mal à saisir. C'est que les candidats se cassent la tête à répondre à des questions sur la Grèce antique, l'histoire des meubles en merisier et les véliplanchistes célèbres dans l'espoir de remporter 14 500 euros. Alors que les téléspectateurs, ils ont la belle vie, eux.
Ça, c'est pour vous à la maison, 40 000 euros à gagner, eh oui.
Donc tu gagnes beaucoup plus en envoyant un SMS en slip depuis ton canapé qu'en étant sur le plateau, ça n'a pas de sens. Il faut voir le niveau de la question. Hein.
40 000 euros à gagner avec cette question. Quelle confiserie offre-t-on traditionnellement lors des baptêmes ? Non, Françoise, c'est pour les gens à la maison.
Ah bah oui, bah elle est pas con, Françoise. Elle va pas s'emmerder pour 14 000 balles. Elle veut les 40 000 avec la question sur le dragé. Bon voilà, en gros, c'est ça, question pour un champion. Et pourquoi le jeu cartonne-t-il autant chez les seniors ? Bah parce que, regardez, question pour un champion, c'est comme aller prendre le thé chez les copines.
On s'est parlé ensemble du Yak à l'instant, du Verlan, de Jean-Pierre Bacri, de Buzz Aldrin et du Spritz. Patricia peut évidemment choisir de revenir. Patricia.
Je reviens pour parler de mes confitures.
Ah bah oui.
Et bah vivement demain.
Merci Bertrand Chamerois. Évidemment, tout ça est totalement authentique. Eva,
oui.
L'heure de votre zapping du lendemain, les programmes que vous avez repérés, le thème du jour.
Ah bah alors, on change de génération. C'est une chronique spéciale moins de 20 ans. Alors rien de scabreux, je vous rassure. Mark Zuckerberg avait 20 ans quand il a lancé Facebook, un petit génie qui souhaitait initialement mettre en contact les jeunes de l'université d'Harvard. Aujourd'hui, 2 milliards 800 millions de personnes dans le monde utilisent le réseau social, un réseau contesté, comme vous le verrez ce soir sur Planète Plus, car peu soucieux notamment de la protection des données personnelles. Et un ancien cadre de la firme américaine témoigne d'ailleurs en ce sens.
4 ou 5 mois après leur introduction en bourse,
Facebook annonce qu'ils vont travailler avec des courtiers de données, le genre d'entreprise dont un Américain moyen ignore totalement l'existence, alors qu'ils vendent et achètent des données sur chacun d'entre nous. Ce qu'on achète, où on fait nos courses, où on vit, quels sont nos trajets quotidiens, ce que font les membres de notre famille, nos centres d'intérêt, des données dont les consommateurs ne savent même pas qu'elles sont récoltées parce qu'elles sont collectées en dehors de Facebook, par des entreprises dont ils ignorent tout. Et Facebook peut s'en servir pour cibler encore davantage ses publicités.
Des courtiers de données, je n'avais jamais entendu cette expression.
Non plus.
Le documentaire intitulé « Le dilemme Facebook » revient ainsi avec détail sur les manquements de Facebook et le danger que représente aussi le réseau social pour les démocratie, principale qualité du documentaire, ce sont les multiples témoignages d'anciens cadres, comme vous venez de l'entendre, mais aussi de cadres actuels de Facebook. Elle aussi, elle a moins de 20 ans, 18 exactement, un génie de la cuisine. Elle s'appelle Charline, elle est la Benjamine de Top Chef. Sa sélection, elle a gagné en participant à Objectif Top Chef. À son grand étonnement, c'est Philippe Etchebest qui a eu un coup de cœur pour elle.
Je suis super émue, j'arrive pas à croire qu'un rêve il peut se réaliser comme ça, donc c'est ouf et... Je vais pas vous décevoir, chef, et je vais tout donner, c'est promis.
C'est promis, la voilà dans la compétition d'ailleurs, et ce soir, elle va cuisiner en binôme et avec enthousiasme.
Je sais que le chichi, il en veut pas, les points qui servent à rien, c'est pas son délire du tout. Mais c'est vrai que c'est mon mentor, chef Etchebest, c'est mon chef, je le connais un petit peu depuis le temps.
Alors ne manquez pas le début de ce deuxième épisode de Top Chef, vous allez découvrir de véritables œuvres d'art. Sur Arte, on a moins de 20 ans également, 17 ans tout juste. La chaîne diffuse le film magnifique d'André Téchiné quand on a 17 ans. L'histoire de Nathan et Damien, ils sont dans la même classe et entre eux, ça ne passe pas du tout. Un regard et les voilà déjà en train de se battre. Sans aucune raison. La mère de Damien, elle est médecin, elle a pourtant rencontré le rival de son fils et elle le trouve plutôt attachant.
J'ai un fils adopté.
Je sais pas, je le connais pas.
Il veut devenir vétérinaire.
Bah dis donc, t'en sais des choses, toi.
Oui, il m'a bien plu.
Ah ouais?
Il est beau. Il doit avoir du succès.
Il s'intéresse pas aux filles. Il s'intéresse à personne.
Au cœur de ce film, deux jeunes hommes mus par un désir inavouable et une mère attentive, attentionnée. Un moment de grâce, vraiment, porté par trois acteurs. Cassé Mottet-Klein, Corentin Fila et Sandrine Kiberlin, que vous venez d'entendre. Je récapitule cette soirée moins de 20 ans. Le dilemme Facebook est à voir sur Planète Plus à 20h55. C'est en deux parties. Top Chef débute à 21h05 sur M6. Et quand on a 17 ans, c'est votre soirée cinéma sur Arte à 20h50.
Merci beaucoup Eva Roch. Merci beaucoup Bertrand Chameroy. Bertrand vous retrouve demain, comme tous les matins, à 7h40. C'est La Touche Âme dans la matinale de Sébastien Krebs et tous les deux demain à 10h. Dans
bonne
un instant,
réponse.
Notre invitée, la comédienne, ils m'ont eu, Annie Dupéré, mais d'abord musique avec Olivia Rodrigo.
I got my driver's license last week, just like we always talked about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs crying. Cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs. Cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Guess you didn't mean what you wrote in that song about me. Cause you said forever, now I drive alone past your street. All my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry for them, cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving.
just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Cause you didn't mean what you wrote in that song about me. Cause you said forever, now I drive alone past your street.
Driver's License, ça veut dire permis de conduire. C'était Olivia Rodrigo sur Europe 1. Dans un instant, notre invitée, la comédienne Annie Dupéret, on va parler de la nouvelle série de France 2 qui démarre ce soir. Ça s'appelle La Faute à Rousseau.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Annie Dupéret.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir ici dans Culture Média, comédienne, faut-il vous présenter, plus de 40 ans de carrière au cinéma. Je vais
56.
Un... 56, ouais, c'est plus de 40. Un éléphant, ça trompe énormément. Oui, je me suis trompé. Vous avez tourné Godard, Vadim, René, Sidney Pollack et plus récemment, Bec Bédé ou Olivier Barou. C'est le haut de Cadéo. Tête d'affiche également avec Bernard Lecoq de la série Une Famille Formidable qui a cartonné 15 ans sur TF1.
Et là, 25. Votre...
25 ans, voilà.
Oui, oui, il veut me rajeunir,
Toujours, c'est politesse élémentaire. Un peu suranné. Votre actualité, une nouvelle série sur France 2, La Faute à Rousseau, c'est ce soir à 21h. 6 épisodes de 52 minutes, là ce sont les bons chiffres. Rousseau, c'est pas Jean-Jacques, mais Benjamin Rousseau, prof de philo. Et par ailleurs, c'est votre fils. Qui est-il? Qu'est-ce qui lui arrive?
Eh bien, Benjamin Rousseau, c'est un prof absolument génial qui est tout à fait un maître dans son domaine, qui est la philosophie. Seulement, il est tellement nul dans sa vie personnelle qu'il est revenu vivre chez sa maman.
Bonne annonce.
Merci maman. Je pensais vraiment que j'avais passé l'âge de t'emmener à l'école, hein.
Comment tu fais pour être à la fois aussi instable et aussi prévisible?
Je me débrouille. On est là pour leur faire réussir le bac.
Tu n'es pas plutôt là pour leur faire réussir leur vie?
Ben lui, il me plaît, lui.
C'est pratique, hein, de faire ce qu'on attend de nous. Sartre, il dit, est-ce que je suis celui qu'on veut que je sois? Ou est-ce que je prends des risques? Que je tente de me réaliser? Quitte à rentrer avec rien, 10 ans plus tard, et passer à côté des choses essentielles.
Je crois que la philosophie, en fait, c'est à 18 ans qu'on en a le plus besoin.
La philo, c'est déconstruire, c'est tout retirer.
Jusqu'à ce qu'on se retrouve en caleçon?
Tout à fait.
L'ironie dans tout cela, c'est que Rousseau, qui aide ses jeunes à avancer, fait du surplace dans sa propre vie, vous l'avez dit, oui. Que ce soit avec les femmes, que ce soit avec son fils de 17 ans, Théo, votre petit-fils un peu largué, le mot est faible. Et il habite chez vous, Benjamin, donc chez sa mère, justement. Qui est votre personnage, cette maman, Eva Rousseau?
Alors on se demande, finalement, elle est tellement solide, cette femme, apparemment, qu'on se demande pourquoi il est si mal dans sa peau, puisqu'elle est très franche du collier. C'est une comédienne, alors qui s'est peut-être pas beaucoup occupée de lui, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup travaillé, je connais le cas.
Ouais.
Et
c'est votre vie.
Donc elle est partie en tournée, tout ça et tout, et elle parle cash, je veux dire, c'est une femme qui a tout vu, tout vécu, un peu trash, comme ouais. faut bien le dire. Et il est, je ne sais pas, il a l'air quand même un peu traumatisé. Alors, c'est pas trop encore qui est le père. Si les gens nous aiment bien et continuent de nous regarder, peut-être on saura à ce moment-là qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Benjamin Rousseau pour qu'il soit aussi mal dans sa peau personnelle. Voilà. Ouais. Mais c'est un personnage qui m'a beaucoup amusé.
Vous dites, elle parle cash, elle parle trash. On va entendre un extrait du 3e épisode. Benjamin, donc votre fils, a une histoire, une petite histoire avec la prof d'anglais. Sauf que c'est davantage qu'une passade. Et elle, la prof, elle en a marre de se cacher. Elle voudrait officialiser votre liaison. Et tout professeur de philosophie qu'il soit, il vient prendre conseil auprès de sa maman, auprès de vous.
Elle veut officialiser? Oh, c'est d'un bourgeois.
Ah mais je suis d'accord, moi.
Oh, qu'est-ce que votre génération est ennuyeuse. Présenter la famille, être fidèle. Pff. Tu vois, j'ai trompé abondamment ton père, hein. Mais ça m'empêchait pas de l'aimer profondément. Remarque, il n'était pas en reste, hein. Les petites thésardes, crois-moi, ça défilait, hein. Ah, toujours le même type, hein. Blonde, le petit cul en pomme. Alors, tu l'aimes bien, cette fille?
Oh non, ça, c'est comme ça.
Donc, tu es amoureux et tu as peur.
C'est un peu du vécu ou pas?
Il a peur de s'attacher, voilà. Alors, peut-être elle lui a donné un exemple comme ça de liberté auquel il s'est exagérément conformé, je ne sais pas.
Mais ça vous ressemble un petit peu. D'abord, cette comédienne que vous êtes qui incarne une comédienne.
Oui.
Et puis aussi le fils qui habite chez sa mère. Vous-même, vous supporteriez un Tanguy à la maison?
Un Tanguy à la maison, non, pas vraiment, mais Non, ça ne risque pas. Mes enfants ont été indépendants extrêmement tôt.
Ouais.
Assez individualiste dans la famille, quand même.
C'est assez moderne. Eva, c'est une grand-mère très proche de son petit-fils. Moderne, j'ai dit, par exemple, elle connaît la définition de cisgenre. Elle plaisante sur les transgenres avec le petit-fils.
Oui.
Vous-même, vous utilisez ces termes cisgenre ?
Non. Elle, il se trouve qu'elle le connaît, Et elle dit d'ailleurs, je te le confie à toi, j'ai été un homme.
Ouais. Elle en sait peu sur son fils, mais nous, on va en savoir davantage sur vous, grâce à Hélène Manarino. C'est le portrait inattendu, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Annie Dupéret, qu'on retrouve ce soir dans La Faute à Rousseau. C'est la nouvelle série de France 2, deux épisodes ce soir et ensuite chaque mercredi pendant trois semaines, trois fois deux, six, je ne me trompe pas.
Hein,
je galère un petit peu sur le problème de maths de CP, alors qu'on est en train de parler de philo en terminale.
Il y a un problème avec les chiffres ce matin.
Exactement, c'est ce matin. Je vous présente Hélène Manarino qui n'a aucun problème avec rien. Bonjour Hélène.
Moi aussi quand même. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour à tous. Bonjour Annie Dupéret. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Nini, comme on peut vous appeler, vous dites souvent « j'ai creusé mes racines en creuse ». Je vous propose d'évoquer tout ce que vous avez pu creuser, justement, dans votre creuse, où vous êtes heureuse. Cela a commencé avec votre plus vieil ami Robert, de 30 ans de plus que vous, qui vous a toujours conseillé pour jardiner et pour faire le plus beau des potagers. Un homme au grand cœur que vous avez. Vous aussi. La dame de cœur, comme certains de vos amis peuvent vous appeler, une femme heureuse, légère et qui aime profiter de la vie. Vous aimez chanter ces anciennes chansons, Il m'a venu, Mistinguette comme celle-ci, véritable épicurienne. Votre bonheur, vous le trouvez dans des choses simples. Vous aimez cueillir vos cerises pour en faire de la confiture avec un gobillard. Vous aimez les dégobiller.
C'est quoi ?
Alors ça, il y a quelqu'un qui a trahi, là. C'est un ami qui dit ça. Non, c'est un...
On n'est jamais trahi que par les
dénoyauteur à cerises, ouais. Que j'ai un cher ami qui l'a baptisé un gobillard.
Alors, votre confiture, oui, mais pas que. Il y a surtout votre vin de noix. Chaque année, au mois de juin, tout le monde se réunit pour faire le vin. Pour vous, c'est sacré. Alors, vous aimez parcourir les chemins de campagne avec votre vélo électrique, un vélo électrique qui ne tombe jamais en panne, alors que celui des autres, c'est plus compliqué. Annie Dupéret, on peut dire que les bonnes choses, vous savez les trouver.
Je connais le traître. Là.
Surtout pas. Ils sont surtout dans vos racines. Vous êtes la reine de la pastilla, mais surtout du gâteau des familles, un gâteau à base de crème de marron, une recette qui vient de votre grand-mère. Le sourire, vous l'avez tout le temps et votre priorité, c'est de le transmettre à vos petits-enfants quand vous faites ensemble quelques sablés, mais aussi à cette dame de 94 ans à qui vous aimez passer dire bonjour en lui apportant parfois une petite plante dès que vous êtes en vélo. Une empathie rarement égalée. Curieuse de tout, vous savez jardiner, vous plantez vous-même, vous aimez rentrer à Paris avec votre voiture d'ailleurs remplie de légumes. Vous êtes aussi couturière. En une journée, vous faites de nouvelles tenues, vos propres vêtements avec des anciens tissus. Il y a aussi la peinture, la photo, ça vient de votre papa, on le sait d'ailleurs avec cette exposition quand vous avez retrouvé ces photos dans votre grenier. Enthousiaste dans tous les domaines, vous aimez votre café en poudre le matin. Pour le soir, boire du champagne. Oui, et vous avez raison.
Hier aussi.
Non, pas hier.
Mais surtout, vous prenez soin de vous, vous faites vos petits exercices tous les jours, vous tenez à la rigueur évidemment vos mouvements. Il y a aussi votre passion pour le trapèze volant, le cirque, mais surtout le cabaret, notamment chez Michou, où vous avez vos plus beaux souvenirs, surtout avec votre ami Freddy. Vous continuez à prendre des nouvelles du cabaret d'ailleurs, vous êtes très attaché aux artistes également. C'est normal, vous êtes un peu la meneuse, Annie Dupéret. Les gens vous suivent, vous admirent aussi votre collection impressionnante de colliers, mais aussi de boucles d'oreilles. Très très original, vous les secouez les vôtres d'aujourd'hui, dans une commode entière et puis surtout, il y a vos lampes Tiffany, que tout le monde envie, évidemment. Alors Annie Dupéret, la mère, grand-mère aimante, présente, l'amie fidèle et à l'écoute, vous êtes aussi une bosseuse, vous aviez l'habitude de tout écrire à la main, mais le jour où vous avez mis votre nez dans l'ordinateur, vous êtes devenue la reine du mail, alors qu'avant, quand on vous parlait d'ordinateur, vous ne supportiez pas ça. Vos racines n'ont jamais bougé, vous avez créé une famille à la télévision qu'on avait envie de rejoindre pour être au plus près finalement d'Annie Dupéret, une femme formidable.
Merci beaucoup Hélène Manarino. Vous êtes reconnue ?
Oh oui, bien sûr.
Et ne vous vengez pas sur vos amis, vous savez.
Non.
On n'est jamais trahi que par les siens.
Voilà, je ne me vengerai sur personne. Tout ça est très gentil.
Et qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans ce portrait ?
dans ce portrait, c'est peut-être effectivement, j'ai toujours eu, d'ailleurs j'ai écouté un jour Jean-Claude Carrière dire exactement ce que je pensais, puisqu'on peut parler de lui, là, c'était un homme absolument formidable. J'ai, après des débuts difficiles dans la vie avec la mort de mes parents et tout ça, et la mort de presque toute ma famille, d'ailleurs, faut bien le dire, il se trouve que j'ai quand même eu de la chance. J'ai eu de la chance. Je veux dire, j'ai rencontré les gens qu'il fallait. Et je pense que, je dis toujours une formule, je dis, il faut être poli avec la chance. C'est-à-dire, il faut la reconnaître et rendre. Et j'ai toujours ce sentiment, et j'ai été frappée un jour d'entendre Jean-Claude Carrière, qui était un peu bouddhiste, le dire, donc j'étais peut-être naturellement bouddhiste. J'ai le sentiment que je reçois beaucoup du sort, peut-être de mes esprits, j'en sais rien, et que si je fais de la contention, si je ne rends pas, ça va s'arrêter. Voilà. J'ai ce sentiment-là que la chance est une chose qu'il faut rendre à son tour.
Soyons polis avec la chance, quelle belle formule. Dans un instant, notre premier indispensable, Nicolas Carreau, qui va nous faire découvrir le nouveau recueil de nouvelles de Stephen King, alias le maître de l'horreur. Et je remercie Hélène Manarino dans son rôle, et à demain. Merci beaucoup Philippe. Hélène, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Annie Dupéret, qui incarne la nouvelle série de France 2 qui démarre ce soir, La Faute à Rousseau. Ça parle de philosophie. Rousseau, ce n'est pas Jean-Jacques.
Je le signale tout de suite.
Bien sûr, je sais, j'ai dit que vous l'incarniez. Ce n'est pas le rôle principal. Le rôle principal, c'est ce prof de philo, Benjamin Rousseau, oui, dont vous êtes la maman, Eva Rousseau, construite autour du personnage de votre fils, prof atypique, qui fait un peu penser au personnage joué par Robin Williams dans Le Cercle des Poètes Disparus. C'est quoi vos souvenirs de philo, de cours de philo?
Ah bah, non, c'est pas la bonne question, là, parce que moi, je suis partie de l'école en quatrième.
Ouais. Voilà. J'adore mais, que ça vous fasse rire.
Mais, oui.
Et quel rapport vous avez eu ensuite à la philosophie?
Alors moi, la philosophie a sauvé ma fille. Elle allait de la même manière que
Sarah,
moi.
Sarah, votre fille Sarah, qu'on connaît.
Ma fille Sarah a hérité malheureusement du malheur scolaire que j'ai eu. Elle s'est mise à vomir devant la grille, à s'évanouir en classe, tout ça. Il fallait la sortir de là. Et elle a, un peu au même âge que moi, 14 ans et demi, 15 ans, elle a voulu quitter l'école. J'ai dit, écoute ma chérie, nous ne sommes pas à la même époque, nous n'avons pas la même histoire. Il faut que tu aies ton bac parce que tu garderas toujours un doute sur le fait est-ce que j'aurais été capable de. Et je l'ai mis dans une toute petite école, un petit cours qui s'appelle Saint-Jean-Perse, et qui est une école en appartement, absolument hors contrat évidemment. Et là, elle a rencontré un prof de philo merveilleux, alors elle, et elle a eu son bac avec mention et 17 en philo.
Extraordinaire histoire.
Extraordinaire, hein.
La phobie scolaire, comme quoi, on voilà, en revient, ça se répare, oui, oui. Je ne vais pas dire que ça se soigne.
Ça se soigne, mais ça se soigne avec des manières un peu différentes. Voilà.
Et vous êtes une grande lectrice?
Ah, oui, j'aime beaucoup lire. Difficile en ce moment. Difficile en ce moment, vu la période.
Et on est avec Nicolas Carreau qui est dans ce studio. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Je vous salue. C'est comment votre bibliothèque? Parce que Nicolas s'intéresse également aux bibliothèques de nos invités. C'est comment chez vous la bibliothèque?
Alors moi, la bibliothèque, elle n'est pas très fournie parce que quand je lis un livre que j'aime bien, je le donne. Tout de suite, il faut que ça ouais, circule. Ah oui.
Donc attendez, ça veut dire qu'il ne vous reste que les livres que vous n'aimez pas?
Non, sous mon lit, j'ai des étagères comme ça, et j'ai tout ce qui est mon petit chez moi en cas d'urgence. Vous savez, en cas d'urgence comme ça, c'est les San Antonio.
D'accord.
Voilà. Il y a deux auteurs que je garde, c'est Colette et San Antonio. Ça a l'air de pas aller ensemble, or ça va pas si mal. Ce sont deux
complémentaires.
Si on peut inventer
non,
un mot,
mal.
Ce sont deux personnes qui ont une impitoyabilité du regard. Comme ça, qui regarde la vie vraiment...
Et non, qu'est-ce que c'est joliment dit, oui. Une séquence, une formule. Merci Annie Dupéret, Nicolas Carreau, la barre,
c'est
elle est là.
Je serais bienvenue, mais s'il n'y a pas de bibliothèque, bon.
Et ce matin, Nicolas, vous jouez à nous faire peur avec le nouveau Stephen King.
Si ça saigne, c'est le titre chez Albin Michel. On fait difficilement plus kingien comme titre. Hein. Alors vous savez, Stephen
Passez
King,
le moment que je le montre à la caméra.
C'est un graphomane et donc il n'y a pas un... Mais quatre romans dans le livre, on appelle ça des novellas en fait, plus long qu'une nouvelle, plus court qu'un roman, 110 pages en moyenne. Ça commence par le téléphone de Monsieur Harrigan, superbe. Les droits ont déjà été achetés pour une adaptation, mais ça c'est toujours pareil avec King.
Oui.
C'est l'histoire de Craig, un jeune garçon dans un village du Maine. À côté de chez lui s'est installé un vieux monsieur, retraité de la finance internationale, très riche, dans une maison de folie. Monsieur Harrigan, c'est son nom, qui embauche Craig pour faire quelques petits travaux domestiques chez lui. Et surtout lui faire la lecture parce qu'il voit mal. Les deux deux ce lit d'amitié. Un jour, Craig lui offre un téléphone portable. Au début, M. Harrigan regarde le téléphone comme une poule un couteau, mais Craig lui montre comment regarder les cours de bourse, etc. Et M. Harrigan devient accro. Finalement, le vieil homme meurt de sa belle mort, mais le jour de l'enterrement, Craig glisse le téléphone portable dans le cercueil. Quelque temps plus tard, Craig se fait embêter à l'école par une brute. Et le soir, un peu triste, il appelle son ami pour entendre la voix du répondeur. Déjà, ça sonne. Très bizarre. Il laisse un message, comme ça, juste pour se livrer, pour raconter sa journée. Et il reçoit un texto, une réponse.
On a envie de savoir, mais n'en dites pas plus.
Certainement pas. Ensuite, c'est la vie de Chuck, ensuite. Ça, c'est complètement dingue. C'est la vie d'un homme, mais racontée à l'envers. On commence dans une atmosphère de fin du monde et on remonte le temps, page après page. Il y a aussi Si ça saigne, ça c'est la suite en fait de L'Outsider, un roman publié il y a 3 ans. Et puis Le Rat, l'histoire d'un écrivain en panne d'inspiration qui noue un pacte avec un rat, c'est-à-dire peut-être, éventuellement, le diable.
En gros, il y en a pour tous les goûts.
Exactement, et c'est ça King. On le réduit parfois au fantastique et à l'horreur, pas du tout. Il est sur tous les terrains. Anne Michel est l'éditrice de Stephen King en France.
On voit bien l'éventail de la maestria de King, à la fois... capable de nous faire préparer une fin du monde, d'être dans le vrai roman d'apprentissage qui est un de ses grands fortés avec l'histoire de ce petit garçon qui va s'occuper de ce vieil homme et communiquer avec lui de par la tombe. La panne d'inspiration d'un écrivain, aussi un des grands thèmes kingiens. Enfin, il y a vraiment toute la gamme des émotions kingiennes qui est quelqu'un qui effectivement non seulement nous dit à la fin de ce roman que pour lui... chaque être humain contient le monde entier, mais qui, d'une certaine manière, par son œuvre, réussit à contenir tous les genres littéraires du monde entier.
Il faut être un grand écrivain pour parvenir à écrire comme ça, de
Absolument.
Différentes manières.
Pendant longtemps, King a été considéré comme un écrivain de seconde zone,
de genre.
Juste bon à raconter des bonnes histoires, mais sans style. C'est faux, c'est un technicien littéraire et un grand lecteur. Passionné de littérature, ses textes sont toujours truffés d'ailleurs de références littéraires.
King, il a une bibliothèque qui contient plus de 17 000 livres. Alors, il y a cette extrême connaissance de la littérature qu'on voit bien, parce que dans la première nouvelle, on retrouve aussi beaucoup de références littéraires, puisque le petit garçon lit au vieil homme beaucoup de romans. Et puis aussi, même dans la figure de M. Harrigan, on peut retrouver aussi la figure de Scrooge de Dickens. On le retrouve aussi, bien évidemment, dans cette nouvelle de la vie de Chuck, avec cette multitude... I Contain Multitude, qui est un vers de Walt Whitman qui va influencer terriblement le jeune Chuck.
Et est-ce Whitman, qui est le poète préféré de Robin Williams dans le Cercle des poètes disparus, et la boucle est bouclée.
Ouais. Ah oui, je me souviens plus de la phrase, vous allez me la retrouver pendant que je vous pose...
Capitaine, mon capitaine.
Exactement, capitaine au capitaine.
Voici. Qui est le traducteur de Stephen King?
Je
vais vous le dire.
Jean Esch, grand traducteur.
Exactement, vous avez raison.
Toujours donné le traducteur.
Est-ce que Stephen King a une influence sur les jeunes écrivains, Nicolas?
Absolument, il lit beaucoup la production contemporaine. On se bat d'ailleurs pour avoir un blurb de King. Un blurb, c'est une citation qu'on peut mettre en bandeau sur un roman, vous savez. Ouais. Genre un livre qui vous bousculera, un chef-d'œuvre contemporain, vous ne le lâcherez pas. Ils ne sont pas toujours utiles, mais quand c'est Stephen King... c'est quand même la classe.
Un blurb donc, Si ça saigne, c'est chez Albin Michel, 4 romans, merci beaucoup Nicolas Carreau, et vous avez raison, traduit de l'anglais États-Unis par Jean Esch. Ça vous tente Annie Dupéret?
Non, pas le blurb. Je suis resté sur ce mot absolument dégueulasse.
Non, mais est-ce que ça vous tente de lire ces nouvelles? Quatre nouvelles. Si ça saigne, avec
absolument.
ce chat qui a une tête de rat au milieu, parce que son nez c'est un rat, on le voit sur europe1.fr. C'est un peu tordu comme elle explique Stephen King.
Samedi, vous allez me le donner?
Oui, on va vous le donner. Je pense à
vous
vos amis qui
sous
disent.
Votre lit alors.
Oui.
Et je pense à ses amis qui se disent, je vais le récupérer quand elle l'aura terminé. Merci beaucoup Nicolas Carreau, Culture Média continue. Louise Bernard sera avec nous, mais d'abord musique avec Benabar. Ça s'appelle on y est, les belles histoires.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Où s'est passé les passants qui flânaient le nez en l'air? Joli cœur au fil du vent et non pas de Tinder. Sont passés les trépassés, les Roméo, les Juliette, qui enlacés sans s'enlacer meurent depuis 1597. Et le piment doux des premières querelles d'amoureux, la première fois où on dit nous, la première fois qu'on se sent deux. Les palpitants brisés aux sanglots pathétiques, où sont passés les dépassés, sont les romantiques.
Les belles histoires,
elle sent bien quelque part. Dites-moi que c'est pour attraper une femme en pleurs qui part. Cet homme qui court dans cet aérogare. Je ne veux pas croire qu'il est juste en retard. Où est l'élève subjugué qui pour sa prof de français rédige un mot doux sans penser qu'elle le corrigerait. Les pensées que vous m'avez inspirées, inspirées, EES. L'amour s'accorde avec le COD et une maîtresse reste une maîtresse. Et les fleurs bleues du passé où sont passés les anges. Les cupidons aux ailes froissées sont-ils en vigilance orange. Et le soupirant, rougissant, qui a le cœur en panique. Où sont passés, bon sang, les derniers romantiques. Les belles histoires, elles sont bien quelque part. Dites-moi que c'est pour attraper une femme en pleurs qui part. Cet homme qui court dans cet aérogare. Je ne veux pas croire qu'il est juste en retard. Où sont passés le rouge aux joues et les symptômes de l'AVC. Quand on éprouve malgré nous ces sentiments incontrôlés. Et les sonates de Chopin qui a coupé la musique. Et puis merde à la fin, où sont passés les romantiques. Elles sont bien quelque part. Dites-moi que c'est pour attraper une femme en pleurs qui part. Cet homme qui court dans cet aérogare. Je ne veux pas croire qu'il est juste en retard.
Les belles histoires, c'était Benabar dans Culture Média sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Louise Bernard.
Rebonjour.
Je ne vous apprends rien, les musées sont toujours fermés, mais le Centre Pompidou propose une alternative aux expositions. C'est une plateforme qui est consacrée à Kandinsky, le peintre.
Oui, le pionnier de l'art abstrait. Alors en un an, crise sanitaire oblige, j'ai vu de nombreux musées proposer des expositions virtuelles, des visites en vidéo. Et à chaque fois, j'ai détesté. Je vais être très honnête. Le numérique enlève souvent tout l'intérêt qu'ont les expositions, mais là... c'est différent.
Ah bon, qu'est-ce que ça a de différent ?
Ben en fait, la plateforme du Centre Pompidou a été développée avec Google Art et ça apporte quelque chose que vous n'auriez pas eu dans le musée. Quelques explications sont d'abord nécessaires. Kandinsky avait un don de synesthésie. C'est le fait d'associer deux sens automatiquement. Par exemple, certaines personnes perçoivent l'alphabet en couleurs ou associent des chiffres à des couleurs. Vous connaissez le fameux poème d'Arthur Rimbaud, Voyelle ?
Ah oui, évidemment.
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Voyelle, je dirai quelques jours vos naissances latentes.
On pense que le poète était synesthète, tout comme Lady Gaga ou encore Pharrell Williams, mais eux, ils associent des musiques à des couleurs. Et là, j'en viens enfin à Kandinsky. C'était son cas aussi. Il voyait les sons et il entendait les couleurs, donc il peignait de la musique.
Et là, on est parti très très loin. Quel rapport avec la plateforme du Centre Pompidou ?
Ça y est, on y vient. Sur ce site internet, vous pouvez écouter ses œuvres, vous cliquez sur les couleurs d'un de ses tableaux et ça produit les sons que le peintre Kandinsky entendait. Voici par exemple du jaune. Il entendait un son de trompette. Il y a le bleu. Ça, c'est un orgue. Et le dernier, le rouge. Oui, ouais, alors c'est un violon, c'est pas la meilleure création.
Mais ah, vous avez dit c'est un violon, j'ai cru que vous allez dire c'est un violet.
Non, c'est un violon, c'est ça.
C'est bizarre.
Oui, c'est moins bien que les autres, mais voilà. Et donc écouter les couleurs l'une après l'autre, ça va, mais vous pouvez choisir de faire jouer toutes les couleurs de son célèbre tableau jaune, rouge, bleu en même temps. Et là, c'est un peu moins audible. Si vous voyez à quoi ressemble le tableau de Kandinsky, vous comprendrez pourquoi.
Il y a pire, hein.
Oui, ça ça reste de l'art quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que le peintre associe chaque couleur à un son, mais surtout à une émotion.
Mais
donc
il
en fait,
dit, il les a situés.
Tout à fait, tout oui, à fait. En fait, d'accord. C'est des écrits qui ont permis de, faire d'accord. cette plateforme, et donc on comprend mieux ses œuvres, pourtant très abstraites. Hein. Le jaune, c'est l'impertinence, par exemple. Le rouge, l'agitation.
Quoi d'autre, Louise, qu'on peut voir sur cette plateforme?
C'est très riche. Hein. Vous pouvez vous perdre dans les 1300 documents proposés, des photos de famille, des manuscrits, des œuvres aussi évidemment, tous légués par la veuve de l'artiste. Et c'est en grande partie la première fois que le public y a accès. Et puis autre innovation technologique, vous avez aussi une galerie en réalité augmentée. Vous téléchargez l'application et vous vous baladez avec l'impression d'avoir des tableaux de Kandinsky chez vous. C'est pas mal. La plateforme est aussi truffée d'infos et d'anecdotes. Je finis sur celle-ci. Kandinsky a découvert son don de synesthésie, donc le fait qu'il voyait en couleur la musique, en écoutant ceci, Wagner, Lohengrin. Et là, on aurait bien aimé être dans sa tête, savoir comment il percevait cette musique en couleur. Ouais. Dans l'intimité de Kandinsky, c'est une immersion digitale du Centre Pompidou réalisée avec Google Arts and Culture. Il aura fallu 2 ans et demi de travail, donc ça a été pensé avant la pandémie, mais ça tombe à point nommé.
Merci beaucoup, Luce Bernard. Ça vous tente?
Ah,
maintenant
oui,
que je sais que vous êtes la reine du mail, est-ce que vous allez voir sur votre internet?
Oui, 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 pourquoi pas. Puis j'étais aux Beaux-Arts, moi, donc ça m'intéresse, tout ouais. ça, la peinture.
Et puis, autre actualité, ce livre de photos, oui. Les photos d'Annie.
Oui, 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 ça c'est un poche, c'est le Seuil auquel je suis très fidèle, puisque j'ai publié tous mes bouquins au Seuil. Mon premier roman, c'était quand même à 25 ans, donc ça fait une paye. Et je suis toujours restée fidèle, je suis une fidèle moi à cette maison d'édition. Et là, ils m'ont fait un poche toilé, cartonné.
C'est très
très
beau,
très beau livre.
Absolument.
Et on peut
délicieux.
Même enlever le prix et le code-barre une fois qu'on le garde. Comme ça, c'est même
oui,
c'est
oui,
même toilé, c'est absolument magnifique.
C'est joli comme
Il
tout.
Faut raconter que votre papa était photographe, vos
voilà.
parents sont décédés, vous avez découvert mort à cause d'une chaudière qui marchait mal quand vous
voilà.
aviez seulement 8 ans et demi. Et en 71, vous avez acheté non pas votre premier appareil photo, mais votre appareil photo.
Oui.
Et vous avez toujours fait des photos jusqu'ici.
Non, j'ai fait pendant 20 ans.
Voilà.
Attends, jusqu'à la découverte des photos de mon père, et là je me suis arrêtée. En fait, c'était certainement pendant 20 ans d'une mystérieuse manière, je le cherchais, j'allais vers lui, j'avais jamais vu ses photos, j'avais toutes les pellicules là, et jamais développées. Et puis voilà, pendant 20 ans, moi j'ai fait tout ce qu'il faisait en fait, le laboratoire, développement des pellicules, et je suis très très contente, c'est un ami qui m'a suggéré un jour de faire une exposition de ces photos que je pensais jamais montrer.
Mmh.
Et maintenant, j'ai des expositions partout.
Mais oui.
J'ai eu le grand honneur d'être à Visa pour l'image,
à Perpignan.
D'être aux promenades photographiques à Vendôme, de un petit peu partout, en Belgique aussi. Et là, j'ai encore 3-4 projets de belles expositions.
Quand ça
j'ai
va
en
redémarrer,
cité une,
allez-y.
Voilà. Les greniers à sel à Honfleur. Je suis un peu effrayée parce que c'est un lieu magnifique et énorme. Voilà, ça va être très chouette.
Et alors, il y a un petit peu de tout pour avoir les photos. Elles sont très, très émouvantes. On voit votre petite sœur Pitou qu'on retrouve
oui,
dans ce livre
modèle,
qui
oui.
n'est plus là. Il y a un portrait absolument magnifique d'une jeune comédienne du conservatoire qui a 18 ans. C'est Isabelle Adjani.
Oui.
Et alors, ce qui m'a le plus ému, moi, c'est le quartier Montparnasse Sud avant sa démolition. Pourquoi
oui.
Parce qu'on voit les anciens immeubles. On a tous vu ça, le vieux Paris. Sauf que derrière, en arrière-plan, vous avez photographié comme des verrues absolument dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot, les immeubles qui remplacent les anciennes petites maisons.
Oui,
et c'est absolument
oui, oui.
dingue ce
je
contraste.
Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai été très touchée. Quand je suis arrivée à Montparnasse, ils étaient en train de commencer à démolir ce quartier. Et c'est une chose qui me touchait beaucoup. Et en fait, j'ai fait un vrai travail de reporter là, en fait. J'allais faire toutes les maisons qui allaient être démolies, j'allais faire ce que j'appelais les portraits de condamnés. C'est-à-dire que il y avait des choses absolument terribles, quoi, très touchantes, des gens qui s'accrochaient à leur appartement, qui voulaient pas partir. Il y a eu des suicides. On a vidé ce quartier et pour le démolir en grande partie. Et
pour en faire rien. Parce que quand on a détruit le vieux Paris pour faire les beaux immeubles haussmanniens, mais là, pour faire des rectangles...
Là, pour faire des rectangles.
De 18 étages, franchement, non.
Une bretelle rue de l'Ouest, voilà, tout ça.
On est bien d'accord. On va continuer à parler de vous, Annie Dupéret. Culture Média continue. Merci beaucoup, Luce Bernard.
Merci
à tout de suite.
Merci à vous.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de la comédienne Annie Dupéret, qu'on peut retrouver dès ce soir dans la nouvelle série de France 2, La Faute à Rousseau. Ça parle de philosophie, mais ce n'est pas Jean-Jacques. Rousseau, c'est un prof un peu atypique de philosophie, dont vous êtes la maman dans cette série. Deux épisodes de 52 minutes ce soir, et puis la semaine prochaine et la suivante. Il y a 6 épisodes en tout. La série parle beaucoup des problèmes de société d'aujourd'hui, évidemment. Le harcèlement, l'identité sexuelle, le genre, la grossophobie. Il y fait également mention de la crise du Covid. Vous avez tourné comment? C'était pendant la crise? Comment ça
c'était
s'est passé?
C'était pendant, effectivement. Ben, on prenait toutes les précautions possibles. Voilà, voilà, on peut quand même tenter de vivre avec.
Ouais, vous tentez de vivre comme nous tous,
ouais.
Comme tout le monde. C'est pas vous faire injure que de donner votre âge, vous le donnez facilement.
Oui, oui, j'ai 72, je crois, hein, parce que je quelquefois je me trompe.
Je vous pose la question. Parce qu'à cet âge-là, on a droit à la vaccination. Est-ce que vous allez vous faire vacciner ou est-ce que c'est déjà fait, Annie Dupéret?
Non, pas pour le moment, pas pour le moment. C'est une position personnelle. Je ne suis pas contre. Je précise tout de suite parce qu'en ce moment, alors là, il y a les pour, les contre.
Bien sûr.
Je ne suis pas contre la vaccination en général. Il se trouve que c'est une nouvelle méthode qui est un peu indûment appelée vaccination parce que ça tient plutôt de la thérapie génique adaptée à une sorte de vaccination. Pour moi, il y a trop d'inconnus sur cette chose-là. Il y a trop d'inconnus. Et d'ailleurs, on est en train de faire quand même l'essai stade 3 à grande échelle avec les humains quand même.
Vous avez même dit pire que ça. Vous avez dit, dans une interview récente, vous avez dit c'est pratique, on vaccine les plus vieux.
Oui,
comme ça, s'il y a des effets, on le saura pas.
S'il y a des effets à long terme, comme ça, on le saura pas, ils ont en crevé avant. Oui,
exactement. Vous le pensez vraiment? C'est de la provoque?
Non, c'est un peu de la provoque. Ceci dit, je cède volontiers ma place. Je préfère attendre un vaccin, entre guillemets, je mets entre guillemets quand même, dont on ne sait pas s'il vous empêche d'être contagieux, ni d'attraper la chose. Apparemment, ça vous protégerait de faire des formes graves. Hein. Mais combien j'ai lu dernièrement, 97,8% de gens qui réchappent au Covid, donc... tous les espoirs sont permis.
Voilà.
Donc si ça rassure les gens, que ça rassure, qu'ils y aillent. Mais qu'ils y aillent. Moi-même, j'ai des amis qui attendent à genoux un vaccin.
Bien sûr.
Mais qu'ils y aillent.
Voilà. Et je précise pour tous les gens qui vont me dire « Mais pourquoi tu n'as pas répliqué aux arguments d'Annie Dupéret ?» Je vais y répondre parce que je n'ai aucune compétence en matière de médecine.
Donc je n'ai rien
à répondre moi-même à ça. Mais il y a plein d'amis, plein de gens que vous connaissez. Il y a une pétition qui a été signée par Daniel Auteuil, Arel Dombal, Julie Gaillet, Junio, qui demandent à être vaccinés dès que ce sera possible.
Mais pas vous.
Il y a 4-5 ans, je parle de médecine avec vous, on peut parler de tout avec vous, Annie Dupéret. Vous avez été l'une des personnalités qui s'était engagée contre la nouvelle formule du Levothyrox, médicament que vous preniez depuis des années pour soigner une hyperthyroïdie. En novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse avait condamné le laboratoire Merck à fournir sans délai le produit ancienne formule. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre? Est-ce que tout va bien de ce côté-là? Est-ce qu'on n'en parle plus? Parfois, on ne parle plus des choses parce que ça s'est arrangé, et parfois parce que l'actualité est passée sur un autre domaine.
Non, c'est pas du tout résolu parce qu'effectivement, il y avait, aux dernières nouvelles, je crois à peu près encore 130 000 personnes en France qui ne supportaient que cette ancienne formule qui a marché pendant 30 ans, etc. Fin de brevet, enfin toutes les histoires habituelles. Fin de brevet, il fallait changer. Et on a fait, pour gagner aussi, je pense, le marché chinois, on a supprimé le lactose pour faire un nouveau produit et on a été des centaines de milliers à avoir des terribles effets secondaires. Ce qu'il y a, c'est que ce qui était particulièrement scandaleux, c'est que ce produit a été changé quasiment en douce.
Ouais.
Voilà.
Mais est-ce que c'est arrangé pour vous? Est-ce que maintenant ça va
Alors,
mieux?
Il faut prendre autre chose, parce que Merck a décidé d'arrêter la production pour l'Europe. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on a une usine en France qui fabrique l'ancienne formule.
D'accord.
Pour l'Italie.
C'est l'absurdité.
C'est extraordinaire.
Du système français.
Hein.
Mais je précise
et nous, on n'y a pas droit. Là, on marche sur la tête.
Voilà. Pour être totalement complet, je précise que le vaccin a été validé par les agences de médicaments et les autorités scientifiques de ce pays. D'un mot, il y a 4 ans, vous m'avez dit avoir une idée, un scénario que vous aviez écrit avec Corinne Maziero pour Dominique Pinon, Maziero et vous.
Et Sarah. Voilà.
Et ben vous en êtes où?
Eh bien, écoutez, ça n'a pas plu au CNC. On a essayé de le proposer, ça ne va pas. C'est un scénario, effectivement, qui est une comédie sensible et qui finit bien. Ça n'a pas l'air d'être la mode. Et je crois que je vais arrêter de m'obstiner et je suis en train d'en faire un roman. Voilà.
Le CNC, le Centre National du Cinéma. Voilà. Merci beaucoup, Annie Dupéré. Je le rappelle, cette nouvelle série, La Faute à Rousseau. Vous êtes la maman du prof de philo. C'est à 21h ce soir sur France 2 et on s'amuse. On apprend beaucoup de choses. Demain,
vous
Culture
ne vous
Média.
Ennuierez pas.
Évidemment qu'on ne s'ennuiera pas, sinon vous n'aurez pas invité. Culture Média, demain, ce sera à 9h avec un numéro exceptionnel de Zone Interdite. On va parler médecine, tiens, justement, consacré aux opérations miracles qui relèvent. Aux opérations, pardon, médicales qui relèvent du miracle. On a parlé dans le journal de Christophe Lamarre. Nous sommes avec le réalisateur de ce doc, Ibar Aibar. Et puis l'humoriste Thomas Gijol qui revient avec Selon Thomas. Deuxième vague, prime événement avec des sketchs à l'honneur. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff, ça fait du bien, c'est le nom de l'émission. Encore merci, Annie Dupéret. Je vous dis à tous et toutes, bonne journée, à demain.
Bonne journée aussi.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.